Europe 1.
Écoutez le monde changer. Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le débat des grandes voix historiques d'Europe 1. Ils sont tous là dans ce studio en pleine forme. Vous les entendez, Michel Cotta, Gérard Carrérou, Catherine Ney et Charles Villeneuve. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Sébastien.
Pendant une heure, nous allons décrypter avec vous les temps forts de l'actualité de la semaine. Trois débats au menu et d'abord, la stratégie du gouvernement face au Covid.
Nous verrons, là aussi, en fonction des réalités locales, puisque nous avons fait le choix de la territorialisation, s'il y a lieu au cas par cas de prendre des mesures complémentaires. Nous adapterons à la réalité.
20 départements désormais en surveillance accrue. De nouvelles mesures dès le week-end prochain si la situation se dégrade. La stratégie du cas par cas peut-elle tenir? Ce sera le premier thème de notre débat. Deuxième thème, la dédiabolisation et la normalisation en marche forcée du Rassemblement National.
Marine Le Pen est aujourd'hui, dans les sondages qui sont publiés dans la presse, créditée entre 46 et 48% au second tour de l'élection présidentielle. Et ce qui veut dire que la victoire, elle est possible.
Jordan Bardella croit en la victoire de Marine Le Pen en 2022, qui poursuit sa mue avec ce revirement stratégique cette semaine. Elle réclame le remboursement de la dette publique et cherche ainsi à séduire les électeurs de droite. Et puis troisième débat, deux ados de 14 ans tué cette semaine dans des rixes en Essonne.
Là, clairement, on ne se sent plus du tout en sécurité. On arrive à un stade où on se dit on a peur de ce qui peut se passer quand on sort au parc avec les enfants.
Nous tenterons de comprendre quelle est la réalité de ces phénomènes de rixes, phénomènes médiatiques ou réalités inquiétantes. Voilà pour le programme. Bienvenue à toutes et à tous. Le débat des grandes voix, c'est parti. L'un était artisan légendaire de la ville de Syracuse sous l'Antiquité. Il s'appelait Damoclès. L'autre, avec son accent chantant de Prades dans les Pyrénées-Orientales, nous donne rendez-vous chaque jeudi soir en 2021. Il s'appelle Jean Castex. Avec lui aussi, une épée au-dessus de la tête, une épée de Damoclès que nous avons tous, 67 millions de Français, celle du reconfinement. Depuis ce matin, reconfinement le week-end seulement dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque, peut-être dans 20 autres départements le week-end prochain. Première question pour vous, Charles Villeneuve. Cette stratégie de territorialisation du cas par cas, comme on dit, est-ce que finalement ce n'est pas reculer pour mieux sauter?
Je dirais que c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est s'adapter au terrain et à la réalité du virus qui ne circule pas partout de la même manière. Fut-il anglais? Il ne circule pas dans tous les départements. Qu'y a-t-il de commun, si vous voulez, entre les Alpes-Maritimes, où il y a à peu près, pour 100 000 habitants, 599,8 cas, c'est-à-dire 600 cas pour 100 000 habitants, et les Côtes d'Armor, où vous avez 60 cas pour 100 000 habitants. Et donc, l'idée, si vous voulez, de ne pas confiner tout le territoire, me semble réaliste.
Vous parliez des Alpes-Maritimes, Charles. Je me tourne vers vous, Michel Cotta. À Nice, par exemple, le maire a décidé de fermer une partie de la promenade des Anglais, d'interdire l'accès aux plages. Est-ce que les élus locaux doivent prendre des mesures, s'ils le jugent nécessaire, sans attendre l'aval de l'exécutif et aller plus loin?
Là-dessus, d'abord, je crois qu'il a beaucoup discuté avec Véran pendant que Véran est passé. Et ensuite, il sait exactement, il n'y a que le maire qui sait quels effectifs il a pour faire respecter le confinement. Or, si je suis bien informé, je crois qu'une grande partie des agents de la force publique municipale sont atteints aussi par le Covid. Il y en a qui sont atteints par le Covid, donc il y a vraiment moins de gens. Et puis, toujours l'interrogation, c'est qui va supporter le confinement. Et je peux vous dire qu'à Nice, hier à 5h de l'après-midi, toutes les voitures, mais une file ininterrompue de voitures, s'en aller dans la montagne, où ils vont d'ailleurs s'accumuler et dans les restaurants, dans les endroits de montagne. Donc, et puis, ils vont revenir lundi matin.
Parce que ce n'est pas confiné en montagne. On le rappelle, il y a 90% du littoral qui est confiné. Vous voyez la difficulté,
de faire respecter complètement un confinement quand la moitié des Niçois s'en vont.
Alors, vous le disiez, il y a un regain de l'épidémie. 50% en moyenne des cas de Covid désormais liés aux variants britanniques, peut-être plus dans certaines régions. Est-ce que le gouvernement, Catherine Ney, est trop attentiste?
Attentiste, il fait ce qu'il peut. C'est-à-dire que choisir entre un confinement simplement sectorisé avec ce que vient de dire Michel, c'est-à-dire des habitants qui ne respectent pas, ou en tous les cas qui ne respectent pas la règle qui est énoncée. Ou alors imposer un confinement général, et là, saturer l'économie, c'est choisir entre la peste et le choléra. C'est très, très difficile. Et surtout, on voit bien que le confinement, première manière, avait été accepté par les Français. C'était quelque chose de nouveau, ils étaient sidérés. Maintenant, ils sont à bout. C'est yo-yo qui vont, qui viennent. Et je pense que si on décidait un confinement général, alors peut-être qu'il... Je crois que ça créerait des dégâts, à la fois psychiques, et puis de refus. Ça va être très compliqué de surveiller... Et le gouvernement est vraiment devant un dilemme effrayant.
L'effet de sidération qui a laissé place à l'effet de lassitude, Gérard Carrérou, impossible pour le gouvernement de reconfiner totalement ?
Impossible, rien n'est jamais impossible, mais simplement la stratégie est claire du président de la République en tout cas, parce que d'autres c'est moins clair. M. Véran ou M. Castex c'est un peu moins clair. Le président c'est clair, il ne veut pas reconfiner, il considère que c'est l'abomination de la désolation pour... à la fois pour l'économie d'une part et pour les conséquences sociales, les étudiants, etc., tout ce que ça provoque, la montée des gens qui sont traumatisés, etc. Donc il ne veut pas, mais tenir le plus longtemps possible. C'est ce qu'il essaye de faire. Ce n'est possible que si on a des armes. Et la seule arme, c'est le vaccin ou les vaccins. Or, pour l'instant, c'est une arme qui est extrêmement vulnérable. Il y a à peu près 40 millions de Français, d'adultes, hein, 40 millions, je veux dire, d'adultes, qui devraient être vaccinés. On en est à 4 millions. 4 millions sur 40 millions, 10%. Et on espère, avec un E majuscule, arriver à vacciner tous ces 40 millions, c'est-à-dire des adultes, dans les 6-8 mois qui viennent. C'est-à-dire, ça nous met jusqu'au mois d'octobre. Moi, je vais simplement dire un mot. Moi, j'ai été vacciné. Non, sans mal. Et j'ai de la chance d'avoir été vacciné parce que j'ai fait aller-retour 100 km. Je remercie le centre de Poissy et son maire. Je remercie ceux qui m'ont vacciné. Et il y a beaucoup, heureusement, de Parisiens qui ont pu se faire vacciner ailleurs. Parce qu'à Paris, par exemple, on peut toujours attendre. Alors moi, j'ai une voiture et je suis encore en âge de conduire. Mais celui qui ne peut pas se déplacer... et qui, à mon âge, comment il fait ? Eh ben c'est le cas de centaines de milliers de Français dans toute la France qui ne peuvent pas accéder au vaccin. Alors... c'est pour ça que tenir sans avoir l'arme des vaccins répartie comme elle l'est en Israël ou comme elle l'est aux États-Unis ou comme elle l'est en Angleterre, ça sera difficile.
Le salut qui passe par la vaccination, vous vous dites, on en est encore loin, c'est le problème. Jeudi, les PDG des labos pharmaceutiques ont été auditionnés, entendus par la Commission européenne. Ils ont plutôt joué profil bas, pour le coup. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'ont donné aucune garantie sur les livraisons pour les mois à venir.
Mais justement, c'est un problème de cet industriel. Ils ont eu déjà de la chance de trouver des vaccins. Maintenant, effectivement, le plus difficile est de faire remonter, de distribuer un vaccin, surtout quand on n'en a pas assez et que le rythme de sortie des vaccins a ralenti, puisqu'on voit bien qu'AstraZeneca et tout ça a ralenti ses doses. Bon, alors, ça frappe quand même toute l'Europe. Tu cites USA... L'Angleterre avait commencé à vacciner avant, et puis elle est passée par, elle est plus européenne. Effectivement, est-ce qu'il y a eu une défaillance du côté de Madame von der Leyen ? Beaucoup de gens maintenant le lui reprochent, mais enfin, ils l'ont accepté avec elle.
Catherine Ney, puis Charles
Villeneuve. Oui, parce que quand Olivier Véran dit mais on vaccine mieux que nos voisins allemands ou italiens, on doute toujours. C'est toujours Cocorico qui on se vante. Et bien, j'ai vérifié ce matin, j'ai appelé notre correspondante en Allemagne qui dit que c'est vrai, les Allemands qui sont 83 millions, c'est-à-dire, et nous sommes 67, eh bien, il y a 3 800 000 personnes qui sont vaccinées ou qui ont au moins déjà reçu une dose. Ça veut dire que Mme Merkel, écoutez, les caisses sont pleines, elle essaie d'avoir des vaccins et elle n'y arrive pas mieux que nous, c'est-à-dire à cause de ce blocage industriel, parce qu'elle ne peut pas faire mieux. Alors, il y a des pays qui ne sont pas en Europe, mais par exemple comme la Serbie. Ils ont commandé, mais dès le début de l'année, ils ont pris des options. Et eux, alors là, c'est presque la population, et c'est presque aussi bien qu'Israël, vous voyez. La Hongrie, ben, elle prend des virus, des vaccins russes, alors qu'il n'est pas encore homologué par l'agence de médicaments.
L'Autriche envisage d'en faire autant.
Voilà. Donc, c'est très, très difficile.
Charles Villeneuve.
Ben, écoutez, il faut regarder les choses en face. L'un des grands échecs français... c'est de ne pas avoir été capable d'avoir son propre vaccin. On l'a dit, on le répète, et je le répète ici, de tous les membres permanents du Conseil de sécurité, des 5 grandes puissances, seule la France n'a pas eu son vaccin. On s'est mis donc dans les mains de la technocratie européenne, qui obéit à un certain nombre de normes. Il y a 27 pays, il y a donc un nombre de normes incroyables. Et on a mis un temps fou, Mme von der Leyen d'ailleurs, a mis un temps fou à négocier avec les grands laboratoires étrangers. Mais il y a des États beaucoup plus agiles que nous, beaucoup plus rapides, comme notamment Israël, mais aussi en Angleterre, alors qui a quitté d'ailleurs, avec le Brexit, l'Europe. Et Boris Johnson, dont on s'est moqué, qui a d'ailleurs raté au début, si vous voulez, qui n'a pas pris l'ampleur de la crise sanitaire, a quand même tout de suite sorti à peu près 3 milliards à 4 milliards et demi de livres et fait la jonction entre AstraZeneca et Oxford pour sortir le vaccin. Il a son propre vaccin. Il en est aujourd'hui à 15-16 millions de vaccinations. Nous en sommes encore loin. Et c'est la même chose pour Israël, bien évidemment, où la vie sauvée est essentielle. Et on s'est mis en retard sur deux fronts. On n'a pas notre vaccin et en même temps, on est dans les mains de l'Europe.
Mais sans compter quand même qu'il y a une erreur de communication formidable concernant le vaccin AstraZeneca. Ah oui. Aujourd'hui, moi j'ai entendu des médecins me dire, Dieu sait s'ils ont peu d'allocations, ils avaient la possibilité de faire 10 personnes la première semaine, ils en auront 30 la semaine prochaine. Mais malgré ça, ils ont du mal, certains m'ont dit j'ai eu du mal à trouver les patients.
Parce que les gens ne veulent pas
d'AstraZeneca, ils voulaient du Pfizer, du coup ils préfèrent. Alors évidemment, vous me direz, c'est quand même extraordinaire que les gens préfèrent ne pas se faire vacciner parce qu'ils ne veulent pas le vaccin soi-disant le moins efficace.
Alors qu'il est prouvé le contraire. Il est très bien.
Vous avez beaucoup de choses à dire, les grandes voix. Oui, on va poursuivre. Gardez ce que vous avez en tête, Michel. On marque une première pause et on en parle dans un instant. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Europe 1.
Sébastien Guyot.
10h21 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce débat des grandes voix. Premier débat consacré à la stratégie du gouvernement face au Covid, cette territorialisation. On parlait des vaccins. Michel Cotta, avec ce manque de confiance, notamment dans le vaccin AstraZeneca. On a vu d'ailleurs Alain Fischer, le monsieur vaccin, défendre comme il le pouvait ce vaccin pour que les Français aillent vers lui, quoi.
Oui, puis seulement quand on parle de la stratégie des vaccins, on ne peut pas rendre responsable simplement Mme von der Leyen et Angela Merkel et Emmanuel Macron ont plaidé pour l'achat groupé, et ils ont sans doute raison financièrement, mais cet achat groupé finalement avec les...
Non, ils ont eu tort financièrement,
parce qu'ils
n'ont pas voulu, Israël a payé un peu plus cher Pfizer et a eu de toute façon le nombre de doses qu'il réclamait.
Oui,
beaucoup plus agiles, ils sont allés plus rapidement. Et les laboratoires internationaux, de toute façon, sont privés.
Mais c'est ce que j'étais en train de dire, Richard. Charles.
Et moi, je dirais, quoi qu'il en coûte, ou alors on l'applique au vaccin ou on ne l'applique pas.
On connaît quand même des gens qui ont dit, attention, en France, des médecins qui ont dit, attention à cet accord avec les différents laboratoires, au moindre retard, on est fichu, évacuez-vous de l'Europe, évadez-vous de l'Europe,
voilà.
Et achetez d'autres. Voilà.
Et surtout qu'au départ, ces questions de santé n'étaient pas l'apanage, c'était pas de l'Europe, elle ne s'en occupait pas.
Mais elle n'a toujours pas la compétence officiellement.
Elle a pas la compétence, mais elle
nous a donné les inconvénients.
Je veux dire, le commissaire breton...
Et des avantages aussi.
Les a alloués, si j'ose dire. Mais voilà, il s'en occupe.
Non, mais j'attire votre attention aussi sur le fait que le gouvernement n'a pas su prendre des risques et travailler avec les entreprises. Et notamment, la fameuse start-up nantaise, celle de Valneva, qui a été méprisée en quelque sorte. On ne lui a même pas répondu, Franck Grimaud, le PDG de Valneva. Il a proposé les services de sa start-up et son vaccin aux Anglais, qui ont tout de suite financé, de toute façon, l'industrialisation et notamment les usines.
Et pour fournir, dans un premier temps, 60 millions de doses.
Au total, 100 millions, Valneva va fournir 100 millions de vaccins aux Anglais, aux Britanniques, alors que c'est une start-up nantaise, française.
Et que nous sommes la start-up nation, soi-disant.
Alors, vous me parlez de start-up nation, moi je vais vous donner une autre définition, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Un propos plat, sot ou insignifiant. Ça vous fait penser à un mot, ça ? J'ai regardé dans le dictionnaire, c'est la définition du mot fadaise. Le Premier ministre l'a employé hier après cette polémique autour du confinement. Écoutez ce qu'il avait dit juste avant, lors de sa conférence de presse jeudi soir.
J'entends également certains appeler à un confinement dur et immédiat, 4 semaines, et puis on est débarrassé. Malheureusement, notamment en raison de la propagation des variants, c'est loin d'être aussi simple.
Ça, c'était donc jeudi soir, quelques minutes avant la sortie d'Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, sur ces trois semaines de confinement et avant le rétropédalage d'hier. Depuis donc, Gérard Carrérou, le Premier ministre, a parlé de fadaise. Anne Hidalgo est rhabillée pour l'hiver.
Il a raison. Alors, c'est rare que je dise que le Premier ministre a raison, parce qu'il a fait beaucoup de lui-même d'erreurs ou de petits couacs. Mais là, vraiment, il a totalement raison. Parce qu'écoutez, elle n'est pas la seule d'ailleurs. D'abord, elle n'est pas la seule, elle ne l'a même pas dit elle-même, elle l'a fait dire par son premier adjoint, elle n'a même pas eu le courage de le dire elle-même, enfin peu importe. Elle a fait dire que 3 mois, on serre la vis à mort, et puis après...
Trois semaines,
c'est-à-dire rien, après on rase gratis, on va au resto, on va au cinéma, franchement, qui peut croire ça? Elle se moque du monde. Alors vous me direz, elle n'a qu'une seule circonstance atténuante. C'est que comme elle entre en campagne électorale, effectivement, elle a cru faire un coup, peut-être, un petit coup électoral pour se faire connaître de toute la France. Ah ben, je vais te dire, elle s'est fait connaître de toute la France.
Non, le zéro Covid, la stratégie du zéro Covid, c'est pas elle qui l'a inventée. Hein. Il y a tout un tas de médecins qui nous démontrent.
Non, mais c'était pas seulement Michel.
Il y a tout un tas de médecins qui
nous démontrent.
Il y a des
pays qui l'ont adopté. Des pays zéro Covid, oui. Nouvelle-Zélande, Australie.
Non, mais j'ai pas mis en cause la stratégie.
C'est plus petit, c'est pas.
Michel, c'est pas seulement le zéro Covid.
Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît.
C'est pas seulement le zéro Covid. Zéro Covid, ça se défend. J'ai entendu le professeur Doré ou un certain nombre d'autres professeurs. Mais le problème, c'est de dire. Non, mais c'est le message. Quand on est un homme politique ou une femme politique, ce qui est la même chose, quand on dit aux Français.
Un peu d'écriture inclusive ce matin.
Oui, c'est la même chose, l'écriture inclusive. Donnez-moi 3 semaines. Serrez-vous pendant 3 semaines à mort et vous aurez la liberté. Vous aurez tout ce que vous voulez après, c'est se moquer du monde. Depuis un an, les gens savent que ce n'est pas vrai.
On a compris, Gérard Carrérou, votre message, mais la stratégie zéro Covid dont vous parliez, Charles Villeneuve, vous l'évoquiez, elle est adoptée en Asie, dans certains pays, elle est adoptée dans le Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça veut dire quoi, cette stratégie? Ça veut dire qu'on reconfine au moindre cas pour 3 ou 4 jours, et ça fonctionne.
Oui,
c'est pas un confinement général.
C'est vrai, mais... Certains se plaignent à propos, vous avez cité le Premier ministre et les fadaises du Premier ministre. Certains se plaignent de la centralisation, de l'excès de centralisation, du Jupiter qui prend les décisions et qui peut contredire même ses conseils de défense, comme a fait le président de la République, qui a refusé de reconfiner. Moi, je suis pour cette centralisation, parce que plus le gouvernement se met à être attentiste et ne prend pas les choses en main, et plus il s'exposera à des initiatives intempestives comme celle de la maire de Paris. Et c'est la raison pour laquelle il faut éviter ce genre de sortie de route. Et c'est pour ça qu'il a utilisé le mot fadaise, que j'adopte.
Contradiction des Français là-dessus. On a dit longtemps, la trop grande centralisation, ça ne marche pas, les élus ne sont pas assez consultés, les territoires, etc. etc. Et puis on s'aperçoit que consulter les territoires de temps en temps, ça aboutit à des erreurs, à des hésitations, donc à des retards. Donc c'est toute la difficulté, effectivement, entre donner la clé au patron des régions et en même temps jouer au fond, jouer sa vie politique future, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, sur les vaccins.
Oui, mais en même temps, Michel... Je trouve que la stratégie du cas par cas, comme l'a défini Sébastien, est bonne. C'est-à-dire qu'elle est adaptée, si tu veux, à la circulation du virus.
Absolument.
Et je citais le cas de la Bretagne par rapport aux Alpes-Maritimes. Ce ne sont pas, si tu veux, les mêmes positions.
Sauf que ça peut changer.
On ne peut pas confiner complètement la Bretagne alors qu'il n'y a pas un seul lit de réanimation qui est occupé depuis... avant-hier.
Mais il y a quand même une donnée, avant qu'on ferme ce chapitre important...
Qu'on va fermer parce qu'on doit marquer une nouvelle pause, mon cher Gérard.
Un mot, c'est le professeur Raoult qui l'a tenu. Alors bon, Non mais je dis pas, il ne fait pas forcément l'hydrochloroxine. Il dit autre chose que l'hydrochloroxine. Il dit notamment une chose, que tous les Français peuvent vérifier en allant sur leur ordinateur ou dans leur journal. C'est regarder combien dans le monde occidental, je parle du monde occidental, j'exclus l'Asie, dans le monde occidental, la variation de la mortalité dans les pays où on n'a rien fait, dans les pays où on a fait tout de manière anarchique, comme on l'a assez longtemps souligné pour les États-Unis, avec les États qui faisaient des... dans les États où on a fait un peu n'importe quoi, et dans les États où on a essayé de faire des choses positives, la variation de plus ou moins de morts, elle se situe entre plus ou moins 20%. 20%. C'est-à-dire qu'en gros, pratiquement partout, on s'aperçoit que quoi qu'on fasse, là c'est pas quoi qu'on coûte, mais quoi qu'on fasse, on ne change pas de manière radicale le comportement de la maladie.
On aura l'occasion d'en reparler, malheureusement.
Il avait dit aussi que trouver un vaccin avant 4 ans, c'était pas possible.
Voilà, ça mériterait un vrai débat.
Il faut dire des fadaises de temps en temps et dire des vérités dans d'autres.
On fera un débat sur les fadaises ou non du professeur Raoult une prochaine fois, chère Grande Voix. On s'arrête là. Dans un instant, le deuxième thème du jour. Marine Le Pen est-elle en train d'opérer une OPA chez les sympathisants républicains? À tout de suite.